Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finances, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we?
Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue dans ces nouvelles chroniques de Maître Marie. Alors, sacrifiant tout d'abord à la tradition des vœux, puisque cette saison, je vous souhaite une belle année 2021, heureuse, inspirée, riche en tous sens, et si vous êtes en panne d'inspiration, n'hésitez pas à aller fouiller dans la bibliothèque de podcast d'Esprit Occitanie, ce sera une belle résolution, et je suis certaine que vous trouverez ce qui vous convient. Commençons l'année avec quelque chose qui vous plaît bien depuis le début de ces chroniques et parce que un peu de distraction ne nuit jamais, le fameux cadre à la suite.
Ah oui, 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 oui.
Et une nouvelle fois, un cadre à la suite en droit du travail, puisque le droit social, c'est comme les Galeries Lafayette, il s'y passe toujours quelque chose. Alors attention, c'est parti, main sur les buzzers. Première question. Ai-je le droit de reporter les entretiens professionnels sur l'année 2021 sans être sanctionné? Bah oui, parce que, effectivement, 2020, ça a été un petit peu compliqué pour organiser tous ces entretiens. Alors, l'entretien professionnel, comment ça marche? Vous avez un entretien bisannuel et un entretien vraiment état des lieux tous les 6 ans. Donc, tous les 2 ans, en principe, vous devez recevoir vos salariés, que ceux-ci soient en CDI, en CDD, temps plein, temps partiel, dans le cadre d'un entretien professionnel. Et la périodicité s'apprécie de date à date, c'est pas par année civile. Cet entretien bisannuel, il est centré sur le salarié, son parcours professionnel, et il est censé vous permettre de mieux l'accompagner dans ses perspectives d'évolution professionnelle, changement de poste, promotion, et aussi d'identifier ses besoins de formation. Un entretien professionnel est également proposé aux salariés qui reprennent leur activité après certaines absences, comme le congé maternité ou le congé parental d'éducation, par exemple. Et au bout de 6 ans de présence, eh bien, cet entretien permet de faire un état des lieux vraiment récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Accords d'entreprise ou à défaut accords de branche peuvent définir une périodicité différente de l'entretien professionnel, ainsi que d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel. Alors, pour les salariés en poste dans leur entreprise avant le 7 mars 2014, les employeurs avaient jusqu'au 7 mars 2020 pour effectuer cet entretien état des lieux. Mais en raison du premier confinement, eh bien effectivement, beaucoup d'entreprises n'ont pas pu organiser les entretiens dans les délais prévus. Alors, dans un premier temps, le gouvernement a repoussé l'échéance des entretiens professionnels état des lieux. Il fallait les organiser pour les salariés concernés avant le 31 décembre 2020, mais ça, c'était sans compter sur confinement 2, le retour. En admettant même que de date à date, on soit dans la périodicité entre les 2 entretiens, ben, avec le Covid, de toute façon, c'était pas forcément facile de les organiser. Donc, eh bien, le gouvernement a repoussé la date butoir de ces fameux entretiens, et pour les entretiens professionnels état des lieux, eh bien, sont concernés les entretiens qui devaient intervenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, et donc oui, on peut reporter ces fameux entretiens sans être sanctionné et sans difficulté. Alors tout ça ressort d'une ordonnance numéro 2020-1501 du 2 décembre 2020, qui vient elle-même modifier une ordonnance précédente, et donc ça prolonge également voilà la suspension jusqu'au 30 juin 2021, et... on va pouvoir organiser tout ça, pardon, très tranquillement. Deuxième question, est-ce qu'on a le droit, justement, de sanctionner un salarié qui refuse de se rendre à son entretien annuel? Alors, on vient de le voir avec la précédente question, l'entretien annuel, c'est un moment important pour le manager, mais aussi pour ses collaborateurs, parce que ça va permettre de mieux connaître les collaborateurs, leurs points forts, leurs points à améliorer, de mieux comprendre leur mode de fonctionnement et leurs aspirations, de reconnaître et de valider leurs compétences et donc de les stimuler. Mais pour évaluer tout ça, eh bien, il faut mettre en place les entretiens d'évaluation. Et ça, la mise en place de ces entretiens, ça relève du pouvoir de direction de l'employeur qui a le droit d'évaluer le travail des salariés. Mais attention, avant d'évaluer l'aptitude professionnelle des salariés, il faut les informer sur les techniques et méthodes que vous allez utiliser. Parce qu'effectivement, ces évaluations, elles peuvent avoir une incidence sur le comportement des salariés, leur évolution de carrière, leur rémunération. Et si elles sont de nature à engendrer une pression psychologique qui va entraîner des répercussions sur les conditions de travail, eh bien le comité social et économique doit être consulté avant leur mise en place. Il est informé, consulté préalablement. Et à partir du moment où on a respecté toutes ces conditions, eh bien oui, dans ces conditions, le salarié qui va refuser l'entretien a un comportement fautif qui peut être sanctionné et cette sanction peut aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Hein. Mais attention, je le rappelle, ça c'est possible si toute la procédure de mise en place a été respectée, c'est-à-dire information et consultation des représentants du personnel et information des salariés. Question suivante, et là on change totalement de registre. Est-ce que j'ai le droit de refuser le congé pour le mariage d'un salarié qui a déjà bénéficié de jours pour la conclusion d'un PACS ? Alors, le principe pour les congés pour les événements familiaux, comment ça marche ? Eh bien le salarié a le droit pour certains événements familiaux à des jours de congé, notamment mariage, conclusion d'un PACS, mariage d'un enfant, chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, mais aussi décès d'un enfant, du conjoint, du concubin, du père, de la mère, ou annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. C'est l'accord d'entreprise ou à défaut l'accord de branche qui détermine la durée de ces différents congés, mais déjà à minima, ces durées ne peuvent être inférieures à 4 jours pour le mariage du salarié ou la conclusion d'un PACS, un jour pour le mariage d'un enfant, 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, 5 jours, pour le décès d'un enfant, sachant qu'à partir du 1er juillet 2020, le salarié pourra bénéficier de 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans, et ce, et quel que soit son âge, s'il était lui-même parent, 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère. Alors, que se passe-t-il si d'abord on s'est paxé, donc on a eu le congé pour PACS, et puis ensuite on se marie, est-ce qu'on peut avoir les deux congés, et surtout est-ce qu'on peut refuser en disant « bah non, je vous ai déjà donné des jours pour votre PACS, donc je vous donnerai pas de jours pour votre mariage ». Eh bien non, l'employeur ne peut pas refuser d'accorder les jours de congé prévus pour un mariage, même s'il a bénéficié d'un congé pour la conclusion d'un PACS. Le congé est attribué au salarié à l'occasion de l'événement familial sur justificatif, et donc pour chaque événement, le salarié bénéficie du congé dédié, qu'importe que ces deux événements aient lieu la même année. Et terminons enfin ce 4 à la suite sur le montant du SMIC 2021. Donc question, augmentation ou pas augmentation ? Le SMIC change normalement chaque année au 1er janvier. Dans un récent rapport remis à la ministre du Travail, les experts préconisaient de s'abstenir de donner tout coup de pouce au SMIC 2021 et de se limiter à une augmentation en application des textes. Jean Castex avait déclaré qu'il n'y aurait vraisemblablement pas de coup de pouce et cela a été confirmé par le porte-parole du gouvernement à la sortie d'un conseil des ministres. Alors en réalité, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a une augmentation de 0,99%. Le montant du SMIC 2020 était de 10,15 euros brut de l'heure, soit 1539,42 euros brut mensuels. Avec l'annonce d'une hausse de 0,99% à compter du 1er janvier 2021, le SMIC horaire passe de 10,15 à 10,25 euros et le SMIC 2021 mensuel sera donc de 1554,58 euros, soit une augmentation brute de 15,16 euros. Cette hausse a été confirmée par un décret publié au Journal officiel du 17 décembre 2020. Alors vous le savez, aucun de vos salariés ne doit percevoir une rémunération inférieure au montant du SMIC 2021, sauf cas particulier. Et si suite à cette augmentation, vous constatez que certains perçoivent un salaire plus bas, bien vous devez modifier leur taux horaire. Pour déterminer si un salarié perçoit bien le SMIC, il faut prendre en compte le salaire de base et des compléments de rémunération versés en contrepartie du temps de travail effectif. Sont notamment concernés les avantages en nature, mais aussi les primes directement liées à l'activité du salarié. Si vous appliquez les minima conventionnels, eh bien, rappelez-vous que les éléments à prendre en compte sont généralement prévus par la convention collective. Et si vous voulez vraiment aller voir le détail des textes, eh bien vous retrouvez tout ça dans un décret 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance et qui est paru au JO du 17 décembre 2020. Eh bien voilà, c'est la fin de notre 4 à la suite du jour. Peut-être avez-vous joué et même gagné, peut-être une séance de rattrapage s'impose-t-elle. Dites-le nous en tous les cas sur la page Facebook d'Esprit Occitanie, je serai toujours heureuse de lire vos commentaires. Si vous souhaitez nous réécouter, rejouer, eh bien retrouvez cette chronique ce soir à 23h et aussi mercredi matin à 10h. Et bien sûr, dans la belle bibliothèque de podcast sur www.espritoccitanie.fr. On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir et je vous laisse pour le moment en compagnie de mes acolytes du patchwork. À la semaine prochaine. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we?
Bonjour chers auditeurs, Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Puisqu'il s'agit de ma première lecture de l'année, j'en profite pour vous adresser tous mes meilleurs vœux en ces temps aussi compliqués. Je vais poursuivre la lecture du roman de Frédéric Coudron, « La suerte des matars ». Juin 2018, Mexico. De retour à l'hôtel, j'avais griffonné quelques questions à la va-vite sur mon bloc-notes à destination d'Ortega. Puis j'avais dormi, une heure à peine. Je me sentais vaseuse, mon sommeil avec le décalage horaire avait été lourd. Allongée sur le lit, en sous-vêtements, au-dessus des couvertures, j'ouvris des yeux de hibou lorsque Paco me secoua légèrement. Il me regarda en riant. « Ah, si je n'étais pas au mot, Lise !» « Tu es quand même une sacrée jolie fille. » Je bougonnais, surtout quand tu râles. « Comment se fait-il que tu sois toujours célibataire à 37 ans ?»« C'est incroyable. Les hétéros ne sont vraiment pas à la hauteur. »« C'est surtout que j'attire les connards. »« Tu parles de la vessière ?»« Tu es au courant ?»« Qui n'est pas au courant à TF1 ?»« Les rumeurs vont vite, surtout quand on fait ça dans un studio d'enregistrement. » J'avais honte. Je me souvenais de cet épisode où Vincent m'avait prise un soir dans le studio du JT. Quelqu'un nous avait donc vus. Je devins toute rouge. « D'où tu tiens ça, toi ?»« Tu sais, même la nuit, il y a des gens qui bossent à Boulogne. Tu connais Mariana, la femme de ménage ?»« Eh oui, il se trouve que c'est une parente éloignée. Et aussi une pipelette de première. » « Ouais, ben, c'est terminé avec la vessière. Et je te confirme que c'est un vrai connard. » Et t'as personne en vue ? Ah non, je crois que j'ai fait le tour de la question. Marre des hommes et de leur lâcheté. Et c'est les femmes. Bon, si on parlait d'autre chose, tes valises sont prêtes ? Oui. Ok, je prends une douche vite fait et on y va. Je me levai et me dirigeai vers la salle de bain comme un robot. Là, j'enlevai mon string et mon soutien-gorge. Puis, je me regardai en pied dans le miroir. Paco n'avait pas tort. Je devais bien l'admettre, je n'étais pas mal du tout pour mon âge. Mince, longs cheveux bruns ondulés, grands yeux de biche, lèvres parfaitement dessinées, jolies fesses rebondies, beaux petits seins en forme de pêche. Honnêtement, je me trouvais même attirante. Pourquoi aucun homme bien ne s'intéressait-il à moi ? La réponse, je la connaissais. De ma jeunesse débridée et chaotique, je gardais de nombreuses séquelles. Sans l'admettre, j'aimais souffrir, physiquement et mentalement, j'en avais besoin. Je me tournais toujours instinctivement vers des bad boys ou des amours impossibles. Le savoir était une chose, m'en guérir en était une autre. Il n'est pas toujours suffisant de connaître le mal qui nous ronge pour l'éradiquer, ça se saurait. Je sautais dans la douche et tournais le robinet d'eau froide. Tous les ans, plus de 41 millions de passagers transitent par l'aéroport international Benito Juárez de Mexico, le plus important d'Amérique latine. J'avais toujours adoré les aéroports. Ils m'évoquaient l'évasion, les vacances, la liberté. En descendant du taxi, je composais le numéro de José Ramón. Il décrocha immédiatement. Il semblait toujours branché sur du 100 000 volts, une qualité indéniable pour un impresario. « Vous êtes où ?»« Porte B. »« J'arrive. » J'eus à peine le temps de fumer la moitié d'une vogue que l'apoderado apparut. « Suivez-moi !» L'homme marchait d'un très bon pas. Nous peignions à le suivre avec nos valises à roulettes et notre matériel, mais il s'en souciait peu. La seule chose qui lui importait semblait être de décoller à l'heure. « Le maestro déteste les retards, dépêchez-vous !» Nous passâmes le contrôle sans encombre. Le personnel de l'aéroport paraissait connaître José Ramón Olano depuis toujours. On le saluait comme un premier ministre. Nous arrivâmes rapidement sur le tarmac où un Falcon flambant neuf nous attendait, porte d'embarquement ouverte. Un homme s'empara de nos bagages pour les placer dans la soute. L'impresario nous invita à monter dans l'appareil. Le pilote nous accueillit chaleureusement. C'était un trentenaire séduisant aux longs cheveux blonds. Il ressemblait à s'y méprendre à l'ami aviateur de Largo Winch dans la bande dessinée du même nom. Nous nous avançâmes. Ortega était assis sur le premier siège après le poste de pilotage. Son regard dirigé vers le hublot, il ne se détourna pas à notre passage. Ce type était décidément détestable et méprisant. Derrière lui, étaient installés d'autres hommes, dont un des peones que j'avais vu dans l'arène. Il y avait également une femme, la trentaine, les cheveux et les yeux noirs, des traits parfaits, aux talons, robe rouge ultramoulante dotée d'un décolleté pigeonnant et généreux. Consciente de sa beauté, le regard fier, elle ressemblait à une danseuse de flamenco. En la croisant, je ressentis une jalousie toute féminine. Dans mon jean, mes baskets, sans maquillage, je me trouvais moche. Paco remarqua ma gêne et ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. À l'oreille, il me glissa quelques mots. « Ça doit être une des maîtresses d'Ortega. Il adore les jolies femmes. Il paraît qu'il les collectionne. » Je ne répondis pas, pensant en moi-même, grand bien lui fasse à cette île d'Algo imbuvable. « Pauvre fille, me dis-je également. » José Ramón nous indiqua nos places situées à l'arrière de l'appareil, un peu à l'écart. Il s'installa à côté de nous. Le jet décolla et une fois qu'il fut à l'altitude de croisière, l'apoderado s'adressa à moi. « Vous avez préparé vos questions ?»« Oui. » Je sortis le bloc-notes sur lequel j'avais écrit les questions que je voulais poser au matador. « À quel âge avez-vous décidé de devenir matador ?»« Si vous n'aviez pas été torero, vers quelle carrière vous seriez-vous orienté ? On dit de vous que vous êtes un magicien de la tauromachie. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Jusqu'à quel âge pensez-vous torer ? Pouvez-vous nous en dire plus sur votre vie privée ? Êtes-vous marié et avez-vous des enfants, des animaux ? Avez-vous parfois peur dans l'arène ? Qui vous a inspiré ? Avez-vous des modèles ? Une idole ? Question bateau, dont je n'étais pas particulièrement fière. Mais j'avais du mal à trouver l'inspiration lorsqu'un sujet ne m'intéressait pas. Alors, s'agissant d'un domaine que je détestais, pas question de me demander de faire du grand journalisme. Je tendis ma feuille à Ramón, qui s'en empara pour aller la donner à Ortega. De loin, je vis que ce dernier demanda un stylo à son agent et écrivit quelques mots sur mon morceau de papier. L'apoderado revint vers nous, la mine déconfite. « Je suis désolée, mademoiselle, monsieur Ortega ne doit pas être bien disposé. » Il me rendit ma feuille. Dessus, le matador avait écrit. « Avez-vous de vraies questions à me poser ? Je suis sûre que vous pouvez faire mieux que cette succession de banalités. » Je fus terriblement vexée. Certes, il avait raison. Certes, je ne m'étais pas foulée. Mais pour qui se prenait ce type ? Il n'était qu'un crétin qui tuait des taureaux, après tout. Pas un génie ou un prix Nobel de littérature. J'étais piquée. Si nous n'avions pas été bloqués dans son jet à 30 000 pieds d'altitude, je serais partie sur le champ, après lui avoir dit le fond de ma pensée. Je regardais Ramon avec mépris, comme on coupait la tête des porteurs de mauvaises nouvelles chez les Romains. Il semblait très gêné et ne savait pas quoi dire. En tant que son agent et représentant, il devait veiller à ce qu'il reste populaire et sympathique aux yeux de la presse. Je pestais. Puis, sous le coup de la colère, je pris mon stylo pour noircir à nouveau la feuille de papier. « Êtes-vous un assassin, monsieur Ortega ? Car d'après ce qu'on dit, vous ne tuez pas que de pauvres taureaux sans défense. » Sans regarder ce que j'avais écrit, José Ramón se saisit du morceau de papier et retourna auprès de son patron. De ma place, je vis Ortega lire, puis se retourner vers moi. Je pensais qu'il allait fort logiquement me fusiller du regard, voire m'insulter depuis son siège. Mais il n'en fit rien. Au contraire, il m'adressa un sourire. Il écrivit à nouveau sur la feuille. L'apoderado, réduit au rôle de messager, me ramena la missive. Je lus. « Vous pensez que je suis un assassin ? Prouvez-le. » De nouveau, Ortega se retourna pour observer ma réaction. Je plantai mes yeux dans les siens, prête à relever le défi. Ce prétentieux ne savait probablement pas à qui il avait affaire. Je n'étais pas aussi faible qu'un malheureux taureau. J'allais le lui montrer. Voilà, chers auditeurs, je vous retrouverai la semaine prochaine pour la suite de ce roman. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les podcasts de toutes les émissions de la radio sur www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour smartphone. À très bientôt !